18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
100% synthé, ça démarre. On est ensemble jusqu'à 19h ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire avec notamment le groupe qui est sorti tout à l'heure. On va parler des absences, des retours. On va aussi parler de cette attaque de la SSE. Une semaine bien chargée qui attend nos verts avec cette semaine à 3 matchs, 9 points possibles. On ira prendre également la température du côté de Bordeaux avec Nicolas du site webgirondin.com. Et puis on va jouer ensemble aussi avec une écharpe 100% synthé à gagner. Le programme est chargé, que ce soit sur le terrain mais aussi dans l'émission. Pour m'accompagner, Paul Rivolier, Joris Sabi du site Evect. Bonsoir messieurs.
Salut Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Bonsoir Kevin, bonsoir à tous.
La censure commence.
Joris Sabi dérange, son micro n'est pas ouvert.
On a voulu me faire taire, donc je répète, bonsoir Kevin et bonsoir à toutes et à tous.
On salue du coup Mehdi qui réalise cette émission, et mon supporter de l'OL Mehdi qui visiblement en veut à Joris Sabi.
Ouais, c'est peut-être parce que j'ai dit que son équipe jouait à 12 chaque week-end, sans parler du public, je sais pas si c'est lié. Mais...
ça attaque fort cette émission ici sur France Bleu Saint-Etienne Noir 100% synthé. Eh ben oui, ça y est, veille de match forcément face aux Girondins de Bordeaux. Le match qui a lieu demain soir et qui sera bien sûr à suivre en direct avec l'avant-match, le match et l'après-match sur France Bleu Saint-Etienne Loire 100% synthé. Ça démarre maintenant.
France Bleu Saint-Etienne Loire 100% synthé. Kevin Gazo.
Et messieurs, eh ben on va pas tarder à démarrer cette émission puisque la grosse info c'est la sortie du groupe aujourd'hui. En tout cas, c'était à quelle heure? À 17h, sortie du groupe. Je commence avec qui? Avec Paul.
Ben on va vous les donner, Kevin. C'est 18 joueurs convoqués par Olivier Dalloglio pour la réception de Bordeaux demain soir dans le Chaudron. Au niveau des gardiens, on va retrouver Étienne Green et Gauthier Larsonneur. Chez les défenseurs, Batoubine Sika, Bentaïk, Briançon, Masson, Nadé et Petro. Au milieu de terrain, Bouchoirie, Chambaud, Fomba, Monconduit, Mouefek, Tardieu. Et enfin, quatre attaquants, Cafaro, Cardona, Mboukou, Wadji. À la lecture de ce groupe, Joris Sabi, est-ce qu'on peut parler d'absence majeure ou d'éventuel retour? Je vous vois sourire quand je parle, quand j'évoque le mot retour. On va y venir, calmez-vous.
Ça a sonné dans ma tête.
On va parler de votre Ibrahima Wadji favori, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres enseignements dans ce groupe, Joris?
Ouais, il y a des enseignements. Après, c'est des enseignements pour ceux qui suivent l'actualité de la Saint-Etienne de près, qui n'en sont peut-être pas, puisqu'on est au courant maintenant depuis quelques jours qu'Ibrahim Sissoko va manquer à la SS dans cette fin de saison. C'est pas une fin de saison pour lui, mais en tout cas, il ne sera pas présent sur la pelouse ce week-end, hein, touché du côté d'Ajaccio à l'échauffement, Ibrahim Sissoko, donc, qui sera absent, à minima pour ce match-là, mais potentiellement pour d'autres. Il n'y a pas encore de durée d'indisponibilité, mais ça ne sent quand même pas très bon pour l'attaquant stéphanois. Denis Sapia, qui est également absent, qui lui, par contre, ça sent mieux parce qu'il a été absent depuis 6 semaines environ et il devrait faire son retour ce mardi à Grenoble. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et il y a quand même le retour défensivement qui va faire énormément de bien à l'Est Saint-Etienne, celui d'Ivan Masson qui était suspendu du côté d'Ajaccio. Donc, et puis, bien sûr, la nouvelle, la grande nouvelle.
Vous avez gardé le meilleur pour la fin, c'est ça?
On garde le meilleur pour la fin, c'est que on perd un attaquant Ibrahim Sissoko, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y en a un autre qui rentre, c'est Ibrahim Awadji qui lui est blessé depuis le déplacement à Dunkerque et qu'il a fait son retour officiellement dans le groupe. Alors on se doute qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes et qu'il va être utilisé avec prudence par le staff stéphanois, mais c'est quand même une super bonne nouvelle. Quand on voit le nombre d'attaquants qu'on a à disposition, ça permet d'avoir une cartouche supplémentaire et Olivier Dalloglio ne va pas s'en priver dans ce sprint final.
Deux petites précisions malgré tout. Mathieu Cafaro, malade en début de semaine, nous confiait Olivier Dalloglio hier en conférence de presse, est bien présent dans ce groupe. Et Thomas Monconduit, c'est presque anodin, mais il fait partie de ce groupe qui réceptionnera Bordeaux demain. On rappelle, hein, Thomas Monconduit qui avait été averti la semaine dernière d'un carton rouge du côté d'Ajaccio. Carton rouge requalifié en carton jaune ce milieu de semaine lors de la commission de discipline de la LFP, qui fait lui aussi partie de la réception de Bordeaux demain au stade Geoffroy Guichard. Donc un groupe effectivement, Kevin, sur le papier, qui est quand même plutôt étoffé. Il manque, mis à part Ibrahim Sissoko, quasiment personne, et Denis Sapia, sinon tout le monde est là. Retour d'Ivan Masson aussi, Joris.
Ouais.
Plutôt une bonne nouvelle pour Olivier Dalloglio, ça, sur le côté.
Qui avait dû, surtout en l'absence de Denis Sapia,
qui avait dû, on le rappelle la semaine dernière, faire évoluer Ayman Mouefek sur un côté droit à sa place.
Disons qu'il va pouvoir compter Olivier Dalloglio sur une défense type ce week-end avec que des joueurs au poste, ce qui n'était pas le cas la semaine passée. Donc c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, et quand on voit le rendement d'Ivan Masson depuis qu'il est revenu de prêt, je pense qu'Olivier Dalloglio ne va pas s'en priver jusqu'à la fin de la saison de son latéral droit. Et ce sera à voir justement du côté de Grenoble quand Denis Sapia va revenir, comment on va pouvoir faire jouer ses défenseurs. On sait qu'Ivan Masson basculait parfois à gauche, mais son poste de prédilection c'est latéral droit, et demain il y aura vraisemblablement pas de doute quant à sa titularisation sur le flanc droit.
Vous le titulariser, vous allez le titulariser direct si vous deviez le faire jouer?
Oui, retour de suspension, il n'y avait pas d'inquiétude physique le concernant. Je vois pas où est le problème de l'aligner d'entrée, contrairement à Ibrahim Ouadji qui n'a pas joué depuis des mois et des mois, où je pense que ce serait presque une erreur de le titulariser, enfin prendre quelques risques. Et je pense qu'il apportera mieux sur une fin de match si on en a besoin, si le score est encore à faire.
Vous n'étiez pas en conférence de presse jeudi, du coup je vais vous poser la question, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les collègues, avec les confrères. Dans une semaine à trois matchs, est-ce que vous opéreriez une rotation dès le premier match? Est-ce que pour vous, Olivier Dalloglio doit déjà penser à avoir un coup d'avance et à penser ce qu'il peut faire et à Grenoble et à Caen la semaine prochaine?
Je pense pas, sauf sur les joueurs qui ont potentiellement été touchés physiquement. On pense à Mathieu Cafaro, potentiellement malade en ce début de semaine, ou Thomas Monconduit aussi, qui a connu quelques pépins physiques sur les dernières semaines. Mais sinon, là, maintenant, c'est six finales que les Verts vont disputer. On peut plus se permettre de se passer des meilleurs joueurs. Je pense qu'Olivier Dalloglio doit penser à aligner son meilleur 11 à chaque match et pas forcément calculer. Et puis on se rend compte que les blessures arrivent parfois au moment où on ne calcule pas forcément. On voit que Ibrahim Sissoko, c'est même pas sur un match, c'est à l'échauffement qu'il s'est blessé. Donc je suis pas sûr qu'en calculant on va éviter davantage de blessures. Après, si le score est fait, je suis assez d'accord. Si les Verts mènent 3-0 à la 60e, ça peut permettre à Olivier Dalloglio de faire tourner un petit peu.
Vous rappelez, Kevin, donc du coup le groupe convoqué par Olivier Dalloglio demain pour la réception de Bordeaux: Green et Larsoler dans les buts, Batou Binsika, Bentaïk, Briançon, Masson, Nadé, Petro en défense, Bouchouari, Chambaud, Fomba, Monconduit, Mouefek, Tardieu au milieu, et enfin Cafaro, Cardona, Mboukou, Ouadji en attaque.
Voilà, le groupe est sorti. On va parler d'une potentielle compo aussi durant l'émission. On va également parler de cette attaque de la SSE. Comment oublier la défaite aussi de ce week-end et repartir de l'avant? Et puis on va avoir aussi les mots du capitaine en lien justement avec cette absence et cette blessure de Sissoko. C'est ce qui arrive ici sur France Bleu à Saint-Étienne-Loire. Et puis vous aussi, vous pouvez réagir 04 77 10 00 10.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Ce samedi, en vadrouille, l'émission de France 3 vous emmène en grande vadrouille sur France Bleu. Le thème de notre balade, qu'il soit à plumes, à écailles ou à poil, de la Drôme à l'Isère en passant par le Cantal, je vous invite à la rencontre des amoureux des animaux. Alors rendez-vous en grande vadrouille, ce samedi, entre 12h et 13h, sur France Bleu.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
100% synthé, ça continue ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On se penche bien sûr sur ce match face à Bordeaux ce week-end. Demain, on est à, ça y est, la veille de ce match, avec une attaque qui va être modifiée suite à cette absence et cette blessure surtout de
Ibrahim Sissoko.
Avec les mots de Briançon, le capitaine, qui était en conférence de presse.
C'est sûr qu'il avait un rôle sur le terrain qui était très important, et en dehors aussi. Il pèse énormément sur les défenses. Il nous crée beaucoup d'occasions. Mais c'est comme ça. Maintenant, il est absent. Il va falloir trouver une solution. Je pense qu'on a des solutions aussi dans notre effectif. Notre jeu va peut-être évoluer, mais en tout cas, il va falloir évoluer sans Ibra et s'adapter rapidement.
Les mots du capitaine durant la conférence de presse qui a eu lieu sur cette absence et cette blessure d'Ibrahim Sissoko. Messieurs, comment on va gérer cette attaque de la SSE ce week-end?
Je vais commencer parce que Anthony Briançon parlait de différentes solutions. Je sais que Joris Sabi en a une toute trouvée. Ça fait un an et demi qu'il nous tanne avec cette solution-là, donc je n'ai pas de grand doute sur celle qu'il va nous proposer. Moi, je pense que la solution, c'est celle qu'on verra demain, c'est celle qu'on a vue du côté d'Ajaccio, à savoir une rebascule d'Erwin Cardona dans l'axe. Nathaniel aime beaucoup sur un côté et Mathieu Cafaro à son opposé. Voilà, dans un 4-3-3 classique, je vois pas Olivier Dalloglio changer son animation offensive demain. Il faudra voir dans quelle mesure Erwin Cardona peut s'adapter à ce poste d'attaquant axial. Ça avait été très compliqué pour lui quand il était arrivé à l'AS Saint-Etienne cet hiver. Il n'avait pas joué depuis quasiment 6 mois et on l'avait propulsé en l'absence déjà d'Ibrahim Sissoko parti à la CAN à la pointe de l'attaque stéphanoise. La différence que je trouve significative par rapport à cette période-là, c'est que depuis il a joué, depuis il a marqué des buts, depuis il s'est rempli physiquement et que ce qu'il a montré du côté d'Ajaccio, même si c'était décevant, était bien différent que de ce qu'il avait pu nous montrer lors du mois de janvier de son arrivée. Donc je suis un peu resté sur ma faim effectivement sur ce qu'il a montré à Ajaccio, mais je pense qu'Erwin Cardona peut pleinement répondre à ce poste d'avant-centre, qui plus est s'il a des joueurs qui seront capables de l'alimenter en ballon, et ce qu'est notamment capable de faire Mathieu Cafaro, parce qu'ils ont une relation assez préférentielle tous les deux.
Ouais, de toute façon, il n'y a pas vraiment de doute à part un changement de système. Je vois pas comment Olivier Dalloglio pourrait changer les hommes. Ibrahim Awadji, je le répète, c'est trop court pour le titulariser d'entrée. Ou alors, le titulariser peut-être en le faisant jouer à une seule mi-temps ou le faire sortir à la 55e. Je trouve ça dommage parce que c'est peut-être gâcher des armes en fin de match. Donc, pour moi, ça sera la même attaque, hein, les trois mêmes que lors du déplacement à Ajaccio. Après, il va falloir voir justement là où j'ai un peu plus de doute. Voir comment ça peut s'articuler cette attaque, parce qu'on a vu que les Verts avaient un visage beaucoup moins séduisant offensivement du côté d'Ajaccio par rapport à leur dernière sortie, et ceci notamment dû à l'absence d'Ibrahim Sissoko qui, là, pour tous les supporters qui ne le voyaient pas forcément, on a vu le travail que faisait Sissoko notamment sans ballon et dans son harcèlement un peu des défenses, et là on n'avait plus de joueurs étant capables de le faire, et c'est dû aussi, comme l'a dit Paul, à un positionnement de Cardona qui n'est peut-être pas son meilleur sur le terrain, même si lui préfère évoluer dans l'axe d'une attaque. Il avait répété que c'était aux côtés d'un autre joueur pour lui tourner autour. Là, il sera tout seul devant, vraisemblablement, si c'est aligné comme ça. Donc, il va falloir que les Verts s'adaptent un peu plus et changent peut-être leur jeu. On sait qu'ils procédaient parfois aussi sur du jeu direct, les Verts, avec Ibrahim Sissoko. Il faut qu'on constate là, maintenant qu'avec Cardona, c'est pas le même style d'attaquant et on peut pas jouer de la même façon que lorsqu'on a un Sissoko. Et même, j'ai envie de dire que même quand Wadji reviendra, s'il rentre dans le dernier quart d'heure ou dans les 30 dernières minutes, il faudra pas jouer de la même façon que lorsqu'on joue avec Ibrahim Sissoko, parce que Wadji c'est encore un profil différent. Alors certes on peut le lancer en profondeur parce qu'il va multiplier les courses, mais Ibrahim Awadji c'est pas un joueur qui est aussi bon que Sissoko dos au but. Donc là encore il va falloir que les Verts s'adaptent, et je pense que ça a été pas mal travaillé à l'entraînement cette semaine, parce que là on était déjà au courant qu'Ibrahim Sissoko ne serait pas là, contrairement au déplacement à Ajaccio.
Je serais curieux d'avoir votre avis, Joris Sabi, sur l'apport des milieux. C'est vrai que du côté d'Ajaccio on a trouvé notamment un Flo Tardieu, un Dylan Chambaud, peut-être un petit peu plus en retrait, surtout pour Dylan Chambaud, je trouve, que ce qui nous avait habitué ces dernières sorties. Est-ce que justement le retour au milieu d'un Ayman Mouefek pourrait pas faciliter le travail de ce trio offensif dans le lien entre cette ligne du milieu et cette ligne d'attaque?
C'est ce qu'il faut souhaiter, que les milieux accompagnent un peu Erwin Cardona, parce qu'on sait que si c'est un attaquant livré à lui-même devant, il va être quasiment inexistant. Erwin Cardona, il existe grâce au travail de ses coéquipiers, ou alors sur un côté où il peut faire parler sa vitesse. Tout seul dans l'axe avec deux voire trois défenseurs centraux parfois qui seront sur lui, ça va être très compliqué. Et surtout ce qui est dommage, c'est que Erwin Cardona c'est l'homme en forme du moment, donc il ne faut pas le gâcher, il faut justement en profiter et le mettre dans les meilleures conditions. Il faut presque construire une équipe aujourd'hui autour d'Erwin Cardona pour que ça fonctionne du côté de l'AS Saint-Etienne.
Voilà Kevin, vous avez la solution pour remplacer Ibrahim Sissoko demain.
Très bien, je mettrai ça en place avec grand plaisir. Merci monsieur, on va continuer bien sûr de parler de cette équipe de la SSE, avec notamment ce match face à Bordeaux. 9 points possibles, on en parle juste après. Stevie Wonder sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Robert pour vous ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci d'être avec nous. 100% Saint-É, ça continue. Mais pour le moment, on fait le point sur la route avec ce grave accident entre un poids lourd et un fourgon qui s'est produit vers 15h sur l'A72 en direction de Saint-Étienne à hauteur de Chambéon, près de Feurs. L'autoroute est actuellement coupée entre les échangeurs de Feurs numéro 6 et de Montbrison à la 7 pour le trafic d'ailleurs qui est dévié vers l'itinéraire de substitution, ce qui génère aussi le centre de Feurs assez chargé. 6 km de bouchons pour le moment à signaler. Si vous voyez quoi que ce soit, si vous êtes dans les bouchons, n'hésitez pas. 04 77 10 00 10. On fait le point avec vous ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 100% Saint-É, ça continue avec à l'approche de ce match, cette belle affiche, cette magnifique affiche. Saint-Étienne, Bordeaux, demain soir à vivre bien sûr en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une semaine cruciale, messieurs, une semaine importante, une semaine à 9 points possibles, c'est pas rien, surtout à l'approche de cette fin de saison, tout simplement.
Ouais, c'est le début d'un triptyque avec un premier rendez-vous demain soir dans le chaudron face à Bordeaux. S'en suivra un déplacement. Vous n'endormez pas, Joris Sabu, je vois piquer du nez. Là. Restez avec nous.
Non, ça va. Parfaitement.
S'en suivra ensuite un déplacement du côté du Stade des Alpes à Grenoble mardi soir et une nouvelle réception pour les Verts face à Caen. Donc deux matchs à domicile, un match à l'extérieur. Les Verts, on le rappelle, ont perdu une petite unité face à Angers le week-end dernier. Donc ils sont actuellement troisième. Donc il faudra prendre des points. On se posait la question cet après-midi au bureau Joris Sabi, combien les Verts pouvaient prendre de points sur cette semaine à trois matchs, et on était à peu près tombé d'accord qu'à partir de 5, ça commençait à être une belle affaire.
Ouais, 5, ça sera déjà pas mal. C'est plus de la moitié des points qui sont à distribuer. Ça veut dire pas de défaite également si les Verts prennent 5 points. Après, à choisir, faut peut-être mieux en perdre 1 et finir à faire 6 sur 9 que faire une victoire et 2 nuls.
Donc, c'est difficile à entendre pour les supporters. Ça.
C'est difficile à entendre, mais les Verts prendraient plus de points qui plus est face à des adversaires qui ne sont pas des adversaires directs. Peut-être si ce n'est Caen qui peut se mêler à la lutte pour les barrages, mais qui ne sera pas un adversaire selon moi pour les deux premières places. Donc là c'est de toute façon il y a 9 points là, soit la moitié des points qui restent à distribuer en Ligue 2 qui vont l'être cette semaine. Donc les Verts ont intérêt de carburer. Et on parlait la semaine dernière de cette capacité de rebond que va avoir l'AS Saint-Etienne. On se souvient qu'après la très bonne série en première partie de saison, les Verts avaient enchaîné 5 défaites consécutives. Autant vous dire que si là l'AS Saint-Etienne enchaîne une telle série, elle ne montera pas en Ligue 1 et elle ne passera peut-être même pas par la case barrage si ça venait à arriver une telle série négative. Donc les Verts, il va falloir qu'ils tout de suite remettre le bleu de chauffe et prendre des points parce que là maintenant il n'y a plus le droit à l'erreur. On en parlait la semaine dernière, c'est déjà quasiment une anomalie d'être encore dans la course à cette montée directe en Ligue 1 avec 10 défaites au compteur. Sur les 15 dernières années, c'est arrivé que deux fois qu'une équipe avec autant de défaites à la fin de la Ligue 2 se mêle à la lutte pour la montée. Donc voilà, les Verts ont eu de la chance, il y a des adversaires qui ont fauté autant ou presque plus que cette saison, ce qui leur permet d'être encore dans la course. Maintenant, il n'y a plus aucun joker à griller et ça commence dès demain à domicile face à Bordeaux.
Ouais, il faudra aussi guetter ce qui se passe du côté d'Auxerre et d'Angers, forcément, mais également dans la course au barrage, peut-être aussi s'inquiéter de ce qui se passe derrière pour l'AS Saint-Etienne. Alors, on a vu que si Laval marquait un petit peu le pas du côté du Paris FC, qu'on annonçait quasiment mort il y a 10 journées, on s'aperçoit qu'avec quelques succès consécutifs, les Parisiens sont dans la course. Je suis en train de récupérer le calendrier des Auxerrois. Donc Auxerre ce week-end se déplace à Rodez. Ils iront à Laval mardi, donc dans un match qui sera forcément scruté par les équipes de tête. Avant d'à nouveau se déplacer à Dunkerque. Donc voilà pour le programme des Auxerrois qui ont quand même une longueur d'avance sur tout le monde dans cette Ligue 2. Du côté des Angevins, donc ils sont plus proches de l'AS Saint-Etienne, réception de 3 ce week-end, pas gagné ce match face à 3 pour les Angevins, avant deux déplacements, Guingamp et le Paris FC qui est l'équipe en forme du moment en Ligue 2. Joris Sabi, sur ce calendrier des prétendants, on va dire, à la montée directe, qui a la semaine la plus facile, j'ai envie de vous dire?
Les matchs sont quand même surtout en Ligue 2, il n'y a pas vraiment de favoris sur les matchs. J'aurais tendance à dire quand même que sur la journée de demain, c'est quand même Angers pour moi qui a le match le plus abordable avec une équipe de 3 qui est quand même en grande difficulté, même si on voit que il n'y a pas de vérité d'une journée à l'autre. On voyait qu'Annecy était en grande difficulté et que maintenant c'est quasiment la meilleure équipe des dernières semaines. Sur l'ensemble, j'aurais tendance à dire quand même que c'est l'AS Saint-Etienne qui a le calendrier le plus facile entre guillemets.
Parce que deux réceptions.
saison, pour moi, les trois adversaires que jouent les Verts sont inférieurs à ceux que jouent les autres équipes. J'aurais tendance à dire même que c'est Auxerre qui a le parcours le plus difficile, avec un déplacement à Rodez, qui est une équipe très difficile qui à jouer. L'AS Saint-Etienne, on est bien au courant depuis qu'elle est en Ligue 2. Et bien sûr, ce match face à Laval, même si Laval c'est un peu en dents de scie dans cette fin de saison, ça reste quand même une équipe de haut de tableau. Donc je pense qu'Auxerre a le parcours quand même le plus difficile sur ces trois matchs.
Merci Joris, merci beaucoup Paul également pour votre avis sur ces matchs qui vont arriver une semaine cruciale.
Juste vous préciser Kevin, on va libérer Joris Sabi parce qu'il
il est très demandé
il revient pour tous ses fans, rassurez-vous, il revient dans 5 minutes.
Un petit aller-retour par Bordeaux
et mais voilà, il est demandé par nos confrères de Bordeaux qui le veulent en interview absolument pour parler de l'AS Saint-Etienne. Voilà, s'il pouvait leur glisser un petit mot de notre part, je sais pas, Claire Appé c'est meilleur que le Canelet, j'en sais rien.
Ouais, ça fait un peu Fred Nicolas, je vais y réfléchir, je vais essayer de faire. Bah,
vous voulez saluer bien de notre part et on revoit dans 5 minutes.
Allez, à tout à l'heure.
Et justement, on recevra aussi dans quelques minutes la partie bordelaise, hein, bien sûr, pour parler.
Échange.
Eh ben oui, on échange. Ça sera avec Nicolas du site Web Girondin pour prendre un petit peu la température du côté de Bordeaux. Comment il voit ce match? C'est ce qui arrive ici sur France Bleu. Saint-Étienne-Loire dans 100% Saint-Té jusqu'à 19h.
100% Saint-Té sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Chez Grand Optical, nous pensons que vos yeux méritent l'excellence. Expertise en santé visuelle, conseils personnalisés et découverte des dernières tendances, nos experts sont là pour vous. Et avec ma box Grand Top, profitez en plus de nombreux avantages et de jusqu'à 40% de réduction sur votre monture. Grande expertise, Grand Optical. Réservé aux détenteurs d'une box Grand Top, produit payant, conditions en magasin ou sur grandoptical.com. Dispositif médical CE.
Toyota Occasion.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
Arrête. Chute.
En avril, pendant les occasions ou jamais, Toyota Occasion double sa garantie. 6 ans au lieu de 3 sur tous les véhicules Toyota, y compris les modèles hybrides.
Toyota Occasion. Offre réservée aux particuliers du 11 au 30 avril sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau Toyota participant.
Oh, la fatigue.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici.
Votre météo, eh bien le temps reste bien nuageux hein, ce soir jusqu'au matin. Le ciel encombré peut lâcher quelques averses en milieu de nuit. La neige ne concerne que le haut forêt. Puis demain, dans l'ensemble de la région, c'est des passages nuageux et éclaircies qui se partagent le ciel. Les éclaircies sont parfois belles. Des nuages plus nombreux hein, dans le Roannais, de Saint-Étienne à Givors ainsi que sur le relief, qui donne d'ailleurs par moments quelques précipitations éparses. La limite plus neige, quant à elle, s'élève de 650 mètres aux premières heures du jour jusqu'au-dessus de 1000 mètres sur la Haute-Loire. Et puis en fin de nuit, les averses persistent seulement dans le Brivadois, sur la Marguerite ainsi que sur le Vivar. Et les températures maximales pour demain en plaine et vallée comprises entre 9 et 10 degrés, entre 2 et 5 degrés sur le relief. En ce moment, il fait 10 à Issinges, 12 au Puy-en-Velay, 13 à Saint-Étienne et Roanne, et puis 14 pour la maximale à Brioude et Genilac, où vous pouvez acheter d'ailleurs vos baguettes hein, dans un sachet France Bleu. C'est à la boulangerie chez Cathy et Guy.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-Té, Kevin Gazo.
100% Saint-Té, ça continue ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, mais pour le moment on va faire aussi un tour du côté de la route. On vous rappelle cet accident qui a eu lieu en milieu d'après-midi sur l'A72 direction Saint-Étienne à hauteur de Chambéon, près de Feur. L'autoroute est toujours coupée entre les échangeurs de Feur, donc la 6 et Montbrison, la 7. Le trafic est dévié via l'itinéraire de substitution. 6 km de bouchons annoncés. Le centre de Feur est également bouché suite à cette déviation. On fait attention et si vous voyez quoi que ce soit, 04 77 10 00 10. Et puis on continue ensemble ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-Té. On continue de parler justement de cette équipe de Saint-Étienne qui joue contre Bordeaux ce samedi. Toujours avec moi Paul Rivolier. Joris Sabi nous a quitté pour le moment.
Elle est partie chez l'ennemi, ouais.
Exactement.
Enfin, l'ennemi le temps d'un week-end. On les aime bien les Bordeaux.
Bah oui, il est parti faire un petit coucou du côté de nos confrères de France Bleu à Gironde. Mais pour le moment, on invite aussi les Bordelais ici avec notamment notre invité, je pense qu'il est avec nous, c'est Nicolas du site webgirondin.com. Nicolas, bonjour.
Salut Kevin, salut à tous.
Salut Nicolas.
Comment ça va Nicolas en cette veille de match?
Moi ça va très bien, mieux que l'équipe bordelaise.
Ah bah justement Nicolas. Voilà.
Heureusement que je vais mieux que...
Dans quel état sont les Bordelais avant de se déplacer du côté du stade Geoffroy Guichard?
Écoute, ils sont dans le même état que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont confiants. Ils sont toujours confiants les Bordelais en fait, en abordant les matchs. Et même quand ils perdent, ils sont contents de leur prestation cette saison. Donc toujours. C'est un peu la marque de fabrique de Bordeaux cette saison, c'est-à-dire on est confiant avant le match. Albert Hira a dit qu'il avait les moyens d'aller gagner face à Saint-Etienne hier en conférence de presse. Et bon, on l'écoute, hein, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude de ses propos. Et puis peut-être qu'après le match samedi, aux alentours de 21h, il dira qu'il a mieux joué que Saint-Etienne, mais on aura perdu.
Nicolas, comment vous expliquez ce parcours assez atypique des Girondins de Bordeaux, 13e avec 43 points? C'est clairement une équipe qu'on attendait en course pour la montée directe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la saison des Bordelais pour qu'ils se retrouvent là à 6 journées de la fin?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses. C'est, vous savez, on dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Et à Bordeaux, c'est ce qui arrive. Hein. En fait, quand on n'est pas les... Déjà, ça part du recrutement. Le recrutement, on a des joueurs qui sont pas... qui n'ont pas d'automatisme entre eux, qui sont pas compatibles entre eux dans le jeu. On part sur une idée de jeu pour le premier match de la saison, en voulant faire du jeu, on annonce qu'on va marquer beaucoup de buts cette saison. Je crois que David Guillon avait dit, il avait cité un chiffre, qu'on marquerait énormément de buts. Et finalement, le premier match, on a des intentions de jeu, mais on n'arrive pas à marquer, on prend 3-0 à Pau. Et là, David Guillon, dès le deuxième match, il change complètement son fusil d'épaule et il change la façon de jouer de Bordeaux. Et ça montre déjà le peu de confiance qu'avait Bordeaux dans son organisation dès le début de la saison. Et puis après, on a un vestiaire qui vit pas bien parce qu'on a mal géré l'échec de la saison dernière. Donc c'est toujours dans les têtes. Bordeaux, cet échec pour la montée à 2 journées de la fin, on était deuxième, hein, quand même, il faut s'en rappeler, et on va perdre à Annecy, et on perd le match face à Rodez, au bout de 23 minutes de jeu, où le match est arrêté parce qu'un supporter arrive sur la pelouse. Et ça n'a pas été digéré par les cadres du vestiaire, et c'est ce qui explique, et par le club, hein, et le club n'a rien fait, n'a rien mis en place aussi pour que ce soit digéré, et ça explique qu'on fait un mauvais début de saison, parce qu'ils ne digèrent pas ça, parce que les nouveaux joueurs qui arrivent ne sont pas bien intégrés. Et puis on vend nos deux meilleurs joueurs, Josh Maja, Dylan Bakwa, qui font le bonheur de Strasbourg aujourd'hui en Ligue 1, et on ne les remplace pas par des joueurs de qualité équivalente. Et donc on arrive avec un échec fin octobre, début novembre, de David Guillon. Il est remplacé par Albert Hira, qui lui arrive avec des idées de jeu, il veut nous faire jouer comme Manchester City. Mais on n'a pas les joueurs pour ça, et la Ligue 2, c'est pas un championnat pour jouer comme ça. Et donc ça passe pas très bien. Ça se passe pas bien entre les joueurs et Hira, même s'ils disent le contraire. Beaucoup de joueurs regrettent le départ de David Guillon. Donc on passe 2 mois où il essaye plusieurs systèmes de jeu, où on enchaîne les défaites, on est relégable. Et là, à un moment donné, il se remet en question. C'est je crois mi-décembre, au mois de janvier à la reprise. Et on commence à avoir un petit peu de résultats. Il revoit un peu sa façon de jouer.
Nicolas,
on allait dans le mur. Voilà.
Si je vous écoute bien, il y a une vraie inquiétude sportive du côté des Girondins de Bordeaux pour cette fin de saison. Je parle pas de la situation structurelle du club. Hein, je parle vraiment sportivement.
Oui, bien sûr. Oui. Mais nous, on pense à se sauver. Moi, j'espère qu'il y aura 45 points assez rapidement pour qu'on puisse se sauver. Mais oui, il y a une vraie inquiétude, hein, parce qu'on n'a pas l'état d'esprit. Et pas là, quand t'es mené 3-0 face à Bastia à domicile, on peut pas dire que les joueurs ont un bon état d'esprit dans le groupe, dans le club. C'est pas possible.
Quels sont malgré tout, Nicolas, de Web Girondin, on le rappelle, les forces de cette équipe? De quoi les Stéphanois vont devoir se méfier demain à Geoffroy Guichard?
Je crois qu'on n'a pas de force, hein, quand on a le plus gros budget de Ligue 2 et qu'on fait pas mieux que la 13e place quasiment sur toute la saison. On peut pas dire qu'on ait des forces aujourd'hui. Allez, je vais en trouver une. David Tajili. Cet ailier georgien, ce joueur percutant, est revenu de sélection il y a quelques semaines avec une qualification pour l'Euro avec la Géorgie, et ça l'a un petit peu transformé, et c'est lui qui a porté un peu l'équipe offensivement sur ces derniers matchs. Voilà, je pense que ça sera le joueur à suivre.
Bon, un petit pronostic, Nicolas, demain pour ce match?
Alors, je vois deux scénarios. Moi j'aimerais un partout pour un pronostic, mais je vois deux scénarios. Un scénario où on peut s'écrouler complètement et prendre beaucoup de buts, même si Sissoko n'est pas là.
Je le prends celui-là. Je prends ce scénario-là avant de connaître le deuxième, hein, je vous le dis tout de suite.
Le deuxième, ça serait un Bordeaux qui joue un petit peu différemment, ouais. Qui joue en transition rapide, en bloc bas, mais c'est pas vraiment le choix que risque faire que fera Riera, je pense. Et on peut-être marquer les premiers et après faire douter Saint-Etienne et faire un qui un partout.
Bon. Voilà,
c'est très bon.
Bon, merci Nicolas et gardez le moral du côté de Bordeaux. Ouais, ça va bien se passer la fin de saison.
Merci pour la thérapie sur votre
ah, on a connu ça l'année dernière, on sait ce que c'est. On compatit.
Merci beaucoup Nicolas, on le rappelle du site webgirondin.com.
Ouais, très bonne adresse webgirondin.com si vous cherchez vraiment les infos bordelaises fiables, vérifiées. Voilà, on bosse souvent avec eux, c'est vraiment la référence du côté de Bordeaux, donc foncez-y les yeux fermés.
Tout comme Évêque, toi, la référence pour Saint-Étienne.
Oui, je peux pas prêcher pour ma paroisse dans la propre émission. Donc,
je le fais pour vous.
Allez, merci, c'est gentil.
On continue bien sûr sur France Bleu à Saint-Étienne Noir de parler de ce match. Quoique, on va jouer là juste après.
Un petit jeu.
Ouais, j'imagine bien. Il y a une écharpe également Saint-Étienne à gagner ici.
Il faut que les auditeurs nous appellent.
Eh ben oui, on vous attend. 04 77 10 0010. Une écharpe Saint-Étienne 100% Saint-Étienne à gagner ici sur France Bleu à Saint-Étienne Noir. Mais pour le moment. Ah bah le champ est libre pour aller justement marquer des buts ce week-end face à Bordeaux.
Voilà, ça bosse les transitions, les intros de musique et tout, incroyable, le champ est libre.
Patrick Fiori sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Et je mange Patrick Fiori.
Quand le soleil brille bien beau, tout est cool et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter. Le chant. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. Le prix de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter. Le chant. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien. Tout est cool et tout est beau.
Patrick Fiori, le chant est libre sur France Bleu, Saint-Étienne Noir. France Bleu Saint-Étienne Loire, bien sûr qu'on parle ici de Saint-Étienne, de la SSE ce week-end face aux Girondins de Bordeaux avec une très 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 belle affiche. Franchement, je crois que c'est la plus belle affiche de la soirée, faut le dire. Avec un groupe qui est sorti à 17h aujourd'hui. Ce groupe, messieurs, je rappelle, on est ici sur France Bleu Saint-Étienne Loire avec Paul Rivoli et Joris Sabi du site Evect. Messieurs, la compo probable, on va en parler, mais avant ça, le rappel du groupe.
Ouais, 18 verts convoqués par Olivier Dalloglio. Dalloglio pour ce match face à Bordeaux. Green et Larsonneur dans les cages. Batoubine, Sika, Bentaïk, Briançon, Masson, Nadé, Petro en défense. Les milieux, Bouchoirie, Chambaud, Fomba, Monconduit, Mouefek, Tardieu. Et enfin, quatre attaquants, Cafaro, Cardona, Mboukou et Wadji pour la fin. Joris Sabi, à l'évocation de ces 18 noms, quelle composition, si vous êtes Olivier Dalloglio demain, vous vous couchez?
Bah, ça tombe bien parce que je l'ai préparé, Paul Site, elle sortira demain. Donc, je vous
c'est l'officiel,
livrer,
alors. C'est l'officiel, c'est celle.
C'est l'officiel de la probable. Hein. On va pas se, trop se mouiller, mais je pense qu'Olivier Dalloglio ne va pas non plus trop innover. Ah, déjà dans la cage, ça sera Gauthier Larsonneur, pas vraiment de surprise. Pour moi, Ivan Masson retrouvera le flanc droit, tandis qu'à gauche, il y aura Léo Petro. La petite surprise, entre guillemets, en défense, que j'annonce souvent et qui n'arrive quasiment jamais, mais j'y crois encore, donc je vais l'annoncer. Pour moi, il y aura un retour d'Anthony Briançon. Et je pense que ça sera à la place de Dylan Batoubine Sika, qui a peut-être été un petit peu plus en difficulté que Michael Nadé du côté d'Ajaccio, ce qui permettrait de garder aussi un gaucher dans cet axe central. Donc pour moi, Briançon, Nadé dans l'axe central. Monconduit, pour moi, qui retrouvera une place de titulaire en sentinelle. Aux côtés, selon moi, toujours d'Aymen Mouefek et de Dylan Chambaud, parce que je sais que Paul n'est pas forcément d'accord, enfin surtout avec la titularisation de Monconduit.
Sur Mouefek et Chambaud, je suis plutôt d'accord.
Ouais, c'est plus mon conduit qui...
Je pense que...
Ça peut être Florent Tardieu.
Ça pourrait
aussi.
Être plus Florent Tardieu. C'est ma perception.
C'est vrai que c'est... Mais c'est toujours difficile parce que c'est quand même trois joueurs qui tournent pas mal ensemble. Donc, mais bon, voilà, je vois ce milieu de terrain. Et enfin, devant, là, pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Mboukou, aux côtés de Cardona et Cafaro, sachant que Ibrahim Ouadji, certes, revient dans le groupe, mais je ne le vois pas débuter cette rencontre.
Tiens, petite question pour vous qui êtes un amoureux des ailiers. Cafaro, Cardona, ils ont un poste bien spécifique. D'ailleurs, Cafaro a été changé de côté par Olivier Dalloglio. Cafaro aime beaucoup. Vous mettez qui à gauche et qui à droite?
Je mettrais Cafaro à gauche.
Et pourquoi, bien sûr, hein, c'est pas le tout de me dire.
Pour rentrer plus sur son pied droit. Et je mettrais beaucoup à droite, qui lui, pour le coup, a quand même des capacités à créer l'incertitude plus que Mathieu Cafaro, et qui est capable de à la fois rentrer sur son pied ou partir extérieur. Donc je ferais comme ça, mais tout en leur disant de permuter, en fait, ce qui crée l'incertitude dans un effectif, si ça permute progressivement dans le match, et surtout peut-être jauger aussi l'adversaire. Hein, si on voit qu'il y a un latéral qui est un peu plus en difficulté que l'autre sur un de ses pieds, bah pourquoi pas changer en mettant Mathieu Cafaro par exemple sur son pied fort. Ça dépendra vraiment au cours du match, mais pour commencer je mettrai Cafaro à gauche parce que ces dernières semaines ça a énormément bien marché.
Je suis relativement d'accord avec la composition de Joris Sabi. Juste deux petits quand même bémols. La titularisation de Thomas Monconduit direct, je sais pas, faudra voir dans quelle mesure il a récupéré, hein, on le rappelle de sa blessure d'avant le match face à Ajaccio. Il avait pas démarré, hein, du côté de la Corse. Donc il faudra voir s'il est en mesure de démarrer directement. Ça pourrait donc être Florent Tardieu. Et je sais que on veut le sortir et depuis 6 mois de l'équipe, Michael Nadé. Mais je me demande si, pour la première fois, ça serait pas le moment de remettre cette charnière Briançon-Batoubine-Sika face à une équipe bordelaise qui, certes, est en difficulté sportivement, mais qui offre quand même des certitudes offensives. C'est une équipe qui est quand même assez à l'aise et qui est capable de marquer quasiment à toutes les rencontres. Même si elle ne marque pas beaucoup de buts, elle marque quasiment à tous les matchs. Donc, je sais pas. Je me dis qu'Olivier Dalloglio pourrait être tenté de remettre à la fois Briançon et à la fois Batoubine-Sika pour demain, mais on aura la réponse demain à 18h. Voir si Joris Sabi a été très inspiré et qu'il a eu la bonne compo.
On va voir. Après, moi, s'il y a une surprise offensive, je dis pas non plus. Ouais. Hein, sur ma ligne, Ibrahim Awadji d'entrée.
Attendez, c'est intéressant ça. Ibrahim Awadji, vous lui donnez combien de temps de jeu demain si vous êtes coach?
Il revient, je lui donnerai pas plus de 30 minutes. 30 minutes maximum.
Ouais, c'est déjà pas mal, je trouve.
Je pense même s'il rentre dans le dernier quart d'heure, c'est déjà
pas mal, je pense.
Pour commencer, ouais.
On aura la réponse, bien sûr, demain à partir de 19h pour le coup d'envoi de ce match ASSE Girondins de Bordeaux. Et puis 18h, bien sûr, l'avant-match à suivre ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Un avant-match qui va s'annoncer passionnant pour savoir comment on va aligner cette attaque face aux Girondins de Bordeaux. On revient, bien sûr, ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire dans 100% Saint-Étienne.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-Étienne, jusqu'à 19h.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, partenaire de l'hippodrome de Saint-Galmier. Ce dimanche 21 avril, course hippique et marché des créateurs. À partir de 13h, réunion de course régionale avec 7 courses de trot au programme. Pour cette journée, l'hippodrome ouvrira ses portes à un marché de créateurs et d'artisanat local. Objets du quotidien, déco, cadeaux vous seront présentés par plus de 30 créateurs et artisans locaux. Une tombola gratuite pour gagner des places à l'aréna ou pour encourager le SCBVG. Toutes les infos sur les réseaux sociaux et le site officiel de l'hippodrome de Saint-Galmier.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Kevin Gazo.
Allez, ne bougez pas ici sur France Bleu à Saint-Étienne-Loire. On va parler aussi de l'équipe féminine. Mais pour le moment, c'est Phil Collins. You can't hurt it. Ouais, bref, vous l'avez compris, c'est pour vous. Ici sur France Bleu.
C'est quoi le titre,
ouais, le titre Kevin. You can't hurry love. Ouais,
je pensais que vous aviez progressé pendant la musique. You can't hurry love.
Exactement, allez, on fait un point sur la route avant. Bah oui, puisque vous le savez, on vous l'a annoncé, cet accident qui s'est produit en milieu d'après-midi sur l'A72 qui a généré du coup cette coupure entre les échangeurs numéro 6 et 7, donc Feur et Montbrison, avec un trafic qui a été dévié via un itinéraire de substitution. Alors on a un peu plus d'informations. Tous les véhicules bloqués ont pu être évacués. La circulation devrait donc reprendre d'ici peut-être une dizaine de minutes. On vous tient bien sûr informé aussi sur le site francebleu.fr. 100% synthé, ça continue ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et là, cette fois-ci, on va pas parler du match de ce samedi face à Bordeaux, que vous pourrez bien sûr suivre en direct dès 18h pour l'avant-match, 19h pour le coup d'envoi. On parle des féminines avec vous, Paul Rivoli et Joris Sabi du site Evect.
Bah ouais, parce qu'on s'est mis un petit match, Joris, cet après-midi au bureau.
C'est que
ça bosse bien. Mais dès le vendredi, ça commence.
Vendredi 14h30. Alors ça, cet horaire de match-là,
celui-là, football, ouais, celui-là, retiré du monde au stade.
Celui-là, on ne l'avait encore jamais sorti. Quand même incroyable. Préciser que c'était un match en retard de la 16e journée donc de D1 Arkema. Les Vertes, rappelez-vous, hein, qui devaient jouer après les professionnels, les garçons, du côté du stade Charletti au Paris FC. Malheureusement, l'état de la pelouse n'avait pas permis la tenue de cette rencontre entre les deux formations féminines. Donc, elles ont remis ça cet après-midi. Et Joris Sabi, ça s'est très bien passé pour les Stéphanoises.
Au niveau du score, en tout cas, c'est très bien passé puisque les Vertes se sont imposées 1-0 face à une formation qui, rappelons-le, a disputé la Ligue des Champions cette saison. Donc une formation qui est taillée pour jouer le haut de tableau, et les Vertes ont d'entrée douché les Parisiennes en ouvrant le score grâce à un joli travail de Chloé Tapia et un super but inscrit par Alexandria Lamontagne, qui est en forme en ce moment, hein, l'attaquante stéphanoise. Donc 1-0, et les Vertes ont beaucoup subi, hein, faut le reconnaître, dans ce match. Grâce à une grande Marine Gignoux, elles ont réussi à tenir ce résultat à 1-0. Donc les Vertes font une superbe opération, puisque après bon, leur défaite dans le derby, on en a parlé à cette antenne, hein, une défaite 6-1, mais face à une équipe qui est hors concours, hein, dans cette D1 Arkema, l'Olympique Lyonnais. Là, elles repartent de l'avant face à une formation qui est de plus haut niveau également, et ça leur permet de, pourquoi pas, rêver dans cette fin de saison. En tout cas, Laurent Martel avait affiché l'objectif du top 6 en D1 Arkema en fin de saison. Là, actuellement, elles sont en course pour les playoffs. Rappelons que c'est les 4 premières, hein, qui joueront les playoffs. Et elles reviennent à 3 points, hein, du stade de Reims, il me semble, avec un match de moins disputé.
C'est... Non, le même nombre, non, de matchs.
Le même nombre de matchs, ouais. Le même nombre de matchs. Ah oui, mais c'était le même match en moins, c'était aujourd'hui. Mais du coup, potentiellement, l'AS Saint-Etienne peut se mêler à la course au play-off, ce qui n'est clairement pas l'objectif du club. Je pense pas que d'ailleurs l'AS Saint-Etienne, au niveau des féminines, soit armée pour jouer cette lutte pour les play-offs. Mais n'empêche que si on nous avait dit ça en début de saison, que l'AS Saint-Etienne se maintiendrait à quelques journées de la fin et que sur les deux, trois dernières journées, elle puisse se mêler à la course pour les play-offs, je pense que tout le monde aurait signé les deux mains, et il faut encore une fois saluer le travail mené par l'AS Saint-Etienne au niveau des féminines, puisque c'est une saison qu'on peut d'ores et déjà qualifier d'exceptionnelle.
Ouais, je trouve que c'est assez symptomatique de la saison qu'ont fait les filles ce match aujourd'hui face au Paris FC. Rappelez qu'elle allait, elle s'était inclinée 6-1 à domicile, hein, face au Paris FC, et il y avait ce jour-là 3 classes d'écart entre les deux formations. Franchement, elles avaient pris une leçon, les Vertes, à la maison, et le 6-1, il était presque gentil. J'ai envie de dire, le score aurait pu être beaucoup plus large. Mais en une demi-saison, c'est une équipe qui a progressé. Alors, Joris l'a dit, il y a beaucoup de circonstances plutôt favorables aux Vertes aujourd'hui. Elles ont beaucoup souffert. Les Parisiennes ont été très maladroites. Mais malgré tout, elles ont été capables de les renverser, de les mettre en danger, de tenir un score pendant quasiment 90 minutes. Donc, il y a une vraie progression de la part de cette équipe dans cette solidité et dans l'appréhension de la D1 Arkema. Il reste 2 matchs. Joris en championnat, un déplacement du côté de Montpellier, qui est l'équipe qui est juste derrière l'AS Saint-Etienne actuellement au classement, et la réception de Lille, qui est avant-dernier et qui n'aura pas grand-chose à jouer dans ce championnat, enfin potentiellement plus grand-chose. Donc il y a quand même des motifs d'espoir de bien figurer dans cette fin de saison pour les Vertes. Il faudra voir au gré des résultats et de Fleury et du Stade de Reims, qui sont les deux équipes devant l'AS Saint-Etienne au classement, si les Vertes peuvent prétendre ou non à jouer ces playoffs. Ça serait, on va pas se mentir, Kevin, assez miraculeux.
Oui, et puis quand bien même il y a des playoffs, quand même rappeler que l'AS Saint-Etienne, en terminant 4e, jouerait contre l'Olympique Lyonnais en playoff. Donc 6-0 à l'aller, 6-1 au retour, ça sera pas un cadeau quoi qu'il arrive pour les Vertes de Laurent Martel. Mais rien que de jouer les playoffs, ce serait exceptionnel pour cette équipe-là qui était taillée pour le maintien. Aller décrocher des playoffs, terminer dans les 4 premières, ce serait une performance exceptionnelle.
L'exploit, il est, je trouve, encore plus impressionnant que Brest, qui peut jouer la Ligue des Champions avec les garçons.
Ouais,
je trouve que c'est d'autant plus remarquable d'être capable de le faire à l'échelle de la D1 Arkema.
On a fait le tour. Merci beaucoup Paul, merci beaucoup Joris également d'être venu ici à l'antenne de France Bleu à Saint-Étienne-Loire à l'approche de ce match. Bah oui, ASSE, Girondins de Bordeaux, c'est demain à 19h avec le coup d'envoi à 19h, je vous l'ai dit, 18h pour l'avant-match, à suivre bien sûr ici en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Messieurs, on vous retrouve très rapidement. Joris, on vous retrouve lundi pour parler de ce match qui aura eu lieu, et puis surtout pour parler aussi du prochain match qui aura lieu dès le lendemain.
Bosser, ça, on débriefera le but d'Ibrahima Wadji à la 85e minute face à Bordeaux.
Bonne soirée tout le monde. Salut.